mardi vers 21h30, j'entends un syndicaliste de Nouvelle Frontière déplorer le plan social. Plan social. Mais les gars, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand va-t-on réfléchir à ce que l'on dit, à ce que l'on n'émet comme fausse parole? Bordel, mais c'est pas possible. Arrêtez de parler de plans sociaux, les syndicalistes. Plans asociaux, plans non sociaux, trouvez un autre nom, mais ne marchez pas dans cette combine linguistique, bon Dieu et sémantique. Les mots ont de l'importance, ils ont une force.
Salut Daniel, salut les AMG. Donc les douaniers de France se mobilisent, donc depuis maintenant un mois. On a démarré des mouvements de protestation par des actions de grève, de statistiques, du contentieux, des actions de blocage, tant routier, aérien que ferroviaire. Notre direction générale a fait passer un jour de carence sur les congés maladie et d'autres absences. Cette dernière gifle met le feu aux poudres. Nous subissons, comme les autres services de l'État, la RGPP. En douane, plus d'un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé. Nous sommes maintenant à 61%. Ce démantèlement nuit gravement à la sécurité des consommateurs, car les contrôles de marchandises pâtissent. De plus, la politique de la Troïka fait baisser les barrières douanières, les contingents et d'autres taxes qui diminuent le budget de l'État. La douane française perd un emploi par jour. Pourtant, avec 17 500 agents environ, nous récupérons 66,2 milliards d'euros, dont 55% pour l'État, 21% pour les organismes de la sécurité sociale, 18,7% pour les collectivités locales, 3,1% pour l'Union européenne. L'année dernière, le journal Fakir titrait « Vive les douaniers ». Nous sommes conscients que nous avons un rôle stratégique à jouer dans un projet de société qui répond à l'intérêt général. Notre direction générale joue le pourrissement. Il est bien entendu que nous ne lâcherons rien.
Un grand merci à Daniel et à toute l'équipe pour ces belles émissions sur le Front Populaire, parce qu'elles nous rappellent quelque chose d'essentiel, c'est que sans l'irruption du mouvement social, sans une dynamique sociale, on n'impose jamais de vrais changements. Et ça résonne tellement d'actualité aujourd'hui, cette phrase, que je veux simplement le souligner, quoi. Je voulais aussi dire que le Front Populaire, s'il est remarquable par les deux grands conquis sociaux que sont la semaine de 40 heures, d'ailleurs qu'on a appelé joliment la semaine des deux dimanches, parce qu'on ne travaillait pas le samedi, et les congés payés, souvent on les considère comme les deux grands conquis de 36, et il y en a un qu'on oublie, et à mon avis c'est l'essentiel, c'est la loi sur les conventions collectives, qui est une loi d'ailleurs imposée par Croizat, il est l'auteur de cette loi, et cette loi elle est importante parce que c'est d'un seul coup une rupture dans les conditions de travail. C'est la substitution au droit oral et divin du patron dans l'entreprise, d'une véritable codification écrite des conditions de travail, imposée avec l'assentiment des délégués du personnel élu. Et ça, c'est une véritable rupture, parce que désormais, on ne pourra plus payer au faciès, on ne pourra plus payer à la tête du client, au faciès syndical ou politique. Je veux aussi rappeler que la loi des 8 heures, c'est plutôt 1919 que 1936, à la suite d'une bataille de siècles, de larmes et de sang, qui a fait passer parfois les entreprises de 12 heures à 8 heures, parfois même de 14 heures, comme en Savoie, à 8 heures. Dire également que la loi sur les comités d'entreprise, elle date de 1945, et c'est encore là une loi Ambroise Croizat, de 1945 et de 1946. Voilà, un grand merci à vous. Et bravo encore, c'est Michel Etiévant de Savoie.
Bonjour, c'est Monique à Paris, Porte de Clichy. Je suis allée, nous sommes allés, malgré la pluie, au rassemblement place Édouard Herriot. Et je voulais remercier Daniel d'avoir communiqué ce message vachement important quand même. Et simplement, je voudrais ajouter une petite information sur le Front Populaire hier sur cette mission qui est fort intéressante et qu'il ne faut pas oublier, comme il ne faut pas oublier la commune. Gilbert Trigano n'est pas le fondateur du Club Méditerranée, et il le rappelait souvent. C'était Gérard Blitz, un Belge. Et les tentes étaient vendues par le frère de Gilbert Trigano. Vous, vous souvenez-vous de ce slogan publicitaire « Le camping, c'est Trigano ». Ah, si vous étiez au Club Méditerranée. Voilà, au revoir.
Bonjour, là bas si j'y suis, Marie des Bouches-du-Rhône, j'en ai plus cassé d'entendre sur France Inter que des propos de gauche. On pourrait-on avoir un petit peu de parité à ce niveau-là, parce que ça commence à devenir très gênant. Voilà, alors chacun ses positions, ok, mais soyons partiales. Au revoir.
Voilà, soyons partiales, quoi, un peu. Vous n'êtes pas assez partial sur France Inter, merci de ces messages, chers AMG, surtout évidemment ceux qui préfigurent l'émission d'aujourd'hui, quatrième volet et dernier volet sur l'évocation du Front Populaire. La vie est à nous, ce fut une espèce d'embellie, d'éclaircie dans des vies difficiles et obscures. C'est donc Blum qui disait ça lui-même du Front Populaire. Alors, une embellie, une éclaircie, et puis quoi ? Eh bien, pour les uns, effectivement, le Front Populaire ne fut que cela. On a commencé en chantant « Allons au-devant de la vie » et on a fini en entonnant « Maréchal, nous voilà ». Ça, c'est une des versions, une des interprétations de cette époque, de cette séquence historique que fut le Front Populaire. Et puis, pour d'autres, l'immense espoir du Front Populaire, la prise de conscience du peuple dans sa capacité à changer la vie, la dignité, découverte ou recouvrée, la vitalité du Front Populaire, la conquête sur la peur en font une embellie fertile, une promesse. Le bonheur nous rendra visite, disait Montéus. Voilà notre thème du jour. Je vous laisse deviner quelle interprétation nous préférons dans celle que je vous propose. Et voilà, une heure avec encore des témoignages magnifiques de 1996, des acteurs et des protagonistes du Front Populaire qui avaient parlé avec la Bastille. J'y suis avec Zoé Varier, exactement. Et puis des archives. Et puis on retrouve l'historienne Danielle Tartakovsky. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas que j'y suis, mais avant la vie est à nous, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas que j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et à tous, si vous le pouvez, allez regarder Démocratie Now hier, du 21 mai, dans la rubrique Stories, on y voit des dizaines de vétérans de la guerre d'Irak et d'Afghanistan, qui jettent leurs médailles de guerre vers le bâtiment où se passe le congrès de l'OTAN. C'est assez bouleversant et j'espère que ça va continuer et que ça va s'amplifier. Merci beaucoup pour vos émissions, à bientôt.
Quand je pense qu'il y a 30 ans, j'avais son âge, et que dans 30 ans, il aura le mien. Je parle de mon fils Léonard, là. Mon fils cadet. Il est à Paris. Si vous le croisez aujourd'hui, vous pouvez lui souhaiter bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a été conçu environ 3 mois après la victoire de la gauche en 81. Et il est né 1 an et 1 jour après l'investiture de Mitterrand. C'est marrant, 1 an et 1 jour. Voilà. Eh bien, ça fait 30 ans, quoi. Bon anniversaire, Nonard.
Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur le comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
On pouvait voir sur le plan culturel ce qu'on n'avait pas vu non plus. La visite des musées, de tout ça, de machins comme ça. On allait s'instruire.
Et là, on voit par exemple FTOF, qui veut dire Fédération du Théâtre Ouvrier de France, qui jouait comme ça dans les usines, dans la salle des fêtes. Et il y avait Prévert, donc, avec le groupe Octobre.
Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière.
L'université ouvrière, où il y avait des cours à peu près sur tous les sujets. J'y ai même, en 1938, donné des cours de photo.
Et
C'est Willy Ronis qui fredonne, là, c'est la base où j'y suis, la vie est à nous, le bonheur nous rendra visite.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, la première journée, les hommes ont occupé l'usine, complètement. Et le lendemain, nous les femmes, pas toutes, hein, mais une partie, une certaine frange de femmes qui étaient bien conscientes qu'il fallait aider, qu'il fallait s'unir, on a décidé aussi de garder l'usine. On a couché à l'usine. Et alors, on leur a fait de la cuisine. Les uns allaient chercher des pommes de terre, des autres de la viande, du pain, tout ça. On s'est organisé et on a été dans la rue collecter. On avait la petite sébille. Il y avait beaucoup de gens qui nous donnaient, hein, parce qu'ils comprenaient, on leur disait pourquoi. On ne gagnait pas suffisamment. Puis il y avait des gros profits pour l'usine. C'est les mêmes rengaines que maintenant. Hein. Et puis on avait aussi... on avait invité toutes les familles qui voulaient venir à faire un grand déjeuner, un immense déjeuner. Tout le monde est venu manger avec du beefsteak et des frites et des fruits. Oui.
C'était la fête, là.
Ah oui, c'était la fête. On a chanté et puis venaient des artistes chanter.
On dansait aussi,
on
non?
On dansait à l'accordéon. On avait des musiciens parmi nos...
Parmi les ouvriers?
Oui, oh oui. Ah oui, il y avait des musiciens, je comprends.
Et on dansait quoi?
Ah ben à ce moment-là, il y avait encore de la polka, troïka, les lanciers, les valses. Ah ça, la valse, c'était populaire. Hein.
Viens gosse, gosse, on va faire un tour, viens faire la noce et tourner toujours. Viens gosse, gosse, on va faire un tour, viens faire un tour. Vers les cieux, viens c'est le printemps, il fait si beau temps que ça me tourne la tête. Je t'emmène avec moi sur les chevaux de bois dans notre quartier à la fête. Viens gosse, gosse, faire encore un tour, viens faire la noce et tourner toujours. Ne sois pas sans ces bras d'amour nuit et jour. Sur les chevaux de bois, on se sent bien mieux. Toi contre moi, les yeux dans les yeux. Alors en quoi s'envoler joyeux vers les cieux.
Alors ça, évidemment, c'est la valse, c'est la java, la valseuse, les poignes sur le valseur. Ça, c'est le côté du Front populaire, ces images qui sont restées gaies, innocentes, fraîches, printanières, tout ce qu'on voudra de plus beau. Et on a bien raison de garder ces images-là et de les chérir encore, mais évidemment, l'ombre avançait. L'ombre avançait, le fascisme arrivait, était déjà en Italie, avançait en Allemagne, menaçait en Espagne. On sait que l'une des raisons qui a mis un terme probablement au Front populaire en France fut la guerre d'Espagne, la non-intervention de la France. C'est une des raisons, il y en a beaucoup d'autres. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui pour finir cette balade dans le Front populaire, La vie est à nous, avec Daniel Tartakovsky. Mais on va parler aussi de cette effervescence culturelle formidable de ces années-là. Pas seulement à travers les arts plastiques, évidemment, il y a eu Guernica, un très très grand moment de l'art et du rapport entre les artistes et le vaste public, et ce coup de génie de Picasso. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu toutes ces expressions populaires qu'on entend là, de musique, c'était des nouveautés, c'était frais, c'était... Il y avait quelque chose de neuf là-dedans, tout ça. Mais il y a eu aussi beaucoup de théâtre, et notamment le groupe Octobre, le fameux groupe Octobre, qui d'ailleurs s'est arrêté en 1936, hein, qui a précédé, dont l'auteur principal fut Jacques Prévert. Mais pas seulement, il y avait d'autres auteurs, et puis surtout, il y a eu toute une pléiade de comédiens magnifiques qui sont sortis de cette aventure du groupe Octobre. Là non plus, il n'y a pas eu que ça, je veux dire, mais c'est cette effervescence à laquelle nous allons prêter oreille aujourd'hui, et puis les photographes aussi, hein, dont l'un est avec nous aujourd'hui, enfin par la voix du moins, c'est Willy Ronis. Voilà, tout ça, le bonheur nous rendra visite, la vie est à nous, là-bas si j'y suis, évocation du Front Populaire.
C'est sur les bords de la Seine, pas bien loin de Charenton, que ceux qui travaillent la semaine se rafraîchissent les poumons. L'air qui vient dans la poitrine, c'est le bonheur, c'est la santé. Mais s'il sent un peu l'usine, il a le goût de la liberté. Mais c'est surtout la guinguette au bord de l'eau, qui fait tourner dans les têtes les mots que l'on croit nouveaux. On entend chaque dimanche, parmi les branches, les tourtereaux échanger l'aveu d'amour qu'il doit les lier pour toujours. Une bonne odeur de frites vient griser les délicats, et l'accordéon excite l'essence avec une java. Tout est joyeux, c'est la fête quand on quitte le boulot pour aller à la guinguette au bord de l'eau. Qu'ils aient doux les dimanches, quand sous les branches les tourtereaux échangeaient l'aveu d'amour et qui devaient les lier toujours. Si nous revoyons sans cesse tous ces ravissants bosquets, c'est que de notre jeunesse ils ont gardé les secrets. Mais quand un souci nous guette, fermons les yeux, nous rêvons à la guinguette, à la guinguette au bord de l'eau.
On pouvait voir sur le plan culturel ce qu'on n'avait pas vu non plus. La visite des musées, de tout ça, de machins comme ça.
Vous en avez profité de tout ça?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple?
À Paris, il y a le musée des arts et métiers. Ça représente des machins professionnels, toutes les premières inventions mécaniques, électriques, par exemple la première locomotive, la première machine à vapeur, la première dynamo. Eh ben, les gens n'y allaient pas voir tout ça. Et le jour où on a mis tout ça en route, eh ben, les jeunes techniciens, les jeunes gens comme nous, hein, qu'on a pensé un peu chef d'équipe ou contremaître, on allait voir tout ça, on allait s'instruire. Qu'avant, les trois quarts ou les questionnaient là-dessus, ils ne savaient même pas. Hein? Alors qu'après, on allait voir tout ça. Hein, ouais.
Et vous alliez au spectacle?
Ah, au spectacle, oui. C'est là qu'on a commencé à faire des films, vraiment, les films humains, qui est là, tiens, la bête humaine, moi j'ai connu Gabin, j'ai connu Carette, qui, à côté de moi, là, qui ont joué le rôle du mécanicien et du chauffeur dans la bête humaine.
Et Bussière.
Hein?
Et Bubu.
Pareil, c'est des gens qui ont fait des films humains. Avant, il y avait des machins, toujours la même chose.
Quand vous dites des films humains, ça veut dire quoi?
Des films humains, ça veut dire qui incorporent dans le film le monde du travail, comme dans la bête humaine. Hein. C'est les cheminots qui sont sur leur machine, qui ont une histoire, il y a comme un accident, ils cherchent à faire quelque chose. Tandis qu'avant, c'était toujours le même film. Vous savez, la bourgeoise qui a un petit mironton chez elle, et puis qui fait son bonhomme cochu, et puis n'importe, c'était toujours des petits trucs comme ça.
Alors, il y avait le cinéma, Et puis au théâtre aussi, non? C'est les premières fois.
Au théâtre, j'ai pas été beaucoup. Je dirais qu'au théâtre, on allait plutôt, les gens de notre classe, nous, on allait plutôt au cinéma. Au cinéma, puis quelques musicals.
Vous vous souvenez des chansons du Front Populaire?
Chansons du Front Populaire. L'International.
L'International. Et les autres?
Debout les données de la terre. Debout les portes de la France. Debout dans cette dernière. Pour sauver le genre humain du passé, faisons table rose. Debout, 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 le monde va changer de porte.
C'est la lutte finale.
Voilà la mémoire d'Henri Choquet qui, lorsque nous l'avions rencontré en 1996, avait 97 ans et se souvenait de ce Front Populaire dont il fut un modeste protagoniste. D'autres protagonistes, un autre protagoniste de ce Front Populaire, c'est Willy Ronis, le photographe Willy Ronis, qui a disparu il y a peu de temps, en 2009, et qui était né en 1910 et qui a vécu ça, l'appareil photo, le boîtier à la main, sur l'œil, sur le corps, partout, et qui a fixé toute cette beauté, cette fraîcheur, cet élan, cet espoir, et puis aussi, je le disais en commençant, l'ombre qui avançait sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier. Et en 96, donc, rencontre avec Didier Daninx, l'écrivain, auteur de nombreux romans, beaucoup de polars notamment, et Willy Ronis, parce que tous les deux venaient de publier un bouquin de photos de Willy Ronis et textes de Didier Daninx.
Ça, c'est une veille dans un atelier à la SNECMA pendant la grève. Ça, c'est une femme qui vend la presse.
Alors, il y a un petit spectacle.
Oui, un petit spectacle, parce que comme les grèves duraient longtemps, il fallait distraire les gars à l'intérieur, parce qu'il fallait qu'ils conservent le moral. Or, il y avait une intendance à assurer. Et le spectacle, les distractions, ça faisait partie. D'ailleurs, il y a ça. Il y avait, moi, j'ai fait des photos des gars qui jouaient aux fléchettes. Il y en a d'autres, vous avez vu, qui jouaient aux cartes. Les femmes venaient et tricotaient, parce que dans la journée, les femmes venaient. Et puis, on faisait la cuisine et des choses comme ça. On apportait des repas du dehors. Donc, il y avait des jeunes artistes qui venaient.
Qu'est-ce qu'on chantait?
Oh, mais le répertoire du musical.
Oui, du moment, quoi.
Du moment.
Il y a Pepe le Moko, là, où sont passés.
Et puis également des chansons qui avaient été créées, vu les circonstances.
Il y avait un groupe qui s'appelait les Frères Mars.
Le groupe Mars.
Le groupe Mars. Et donc, c'est Francis Lemarque avec ses frères. Et qui se baladent dans les usines occupées, et ils sont là avec des porte-voix. Et
ah, ça, c'est pendant
Francis Lemarque est là-dedans. Oui. Alors, je ne sais pas lequel c'est.
C'est pendant la journée du mur des fédérés à Père-Lachaise. C'est pourquoi on les voit debout sur des tombes.
Et là, on voit par exemple FTOF, qui veut dire Fédération du Théâtre Ouvrier de France. Et il y a eu une floraison de centaines et de centaines de groupes de théâtre, de groupes de chorales et tout. Et par exemple, à Aubervilliers, il y avait une troupe qui s'appelait la troupe Aurora, qui était beaucoup, où il y avait pas mal d'Espagnols et d'Italiens, qui jouaient comme ça dans les usines, dans la salle des fêtes. Les gens se promenaient, donc ils venaient avec les comités de grève. Et il y avait Prévert, donc avec le groupe Octobre,
c'est ça,
et tout ce qui est
est né du groupe Octobre, qui était là où il y avait Marcel Duhamel et où il y avait quelqu'un de fabuleux qui est Raymond Bussière.
Bien sûr,
et
ouais.
Ils sont tous partis. Il y a eu un grand festival de théâtre ouvrier, comme ça, international, qui s'est produit à Moscou. Et là, ils sont tous partis en bateau. On a les photos de Prévert, Duhamel et toute la troupe partant en bateau pour le festival international de théâtre ouvrier. Et ça, ça a été aussi quelque chose au moment du Front populaire, cette exigence de, non pas de consommation de culture, mais de création d'une culture, cette espèce de rêve d'une culture ouvrière, exprimer sa vie, exprimer ses revendications, ses espoirs à travers la chanson, le théâtre, la musique.
Voilà, et une volonté d'émancipation par la musique, par la chanson et par le théâtre. Alors effectivement, ce qui reste de cette époque-là, c'est le fameux groupe Octobre, dans lequel on avait Jacques Prévert qui écrivait des textes, qui était proche de son frère inséparable Pierre Prévert. De ce groupe est née toute une mais invraisemblable série d'artistes et de grands noms qui allaient ensuite être partout. Il y a Marcel Duhamel, l'inventeur de la série noire, mais il y a eu Yves Allégret, Jean Dasté, Roger Blin, Mouloudji, Alain Cuny, Jean Villard, Paul Grimaud, etc. Il y a toute une liste de gens qui ont participé à cette aventure du groupe Octobre. On allait devant les usines Renault, Citroën, et on jouait des pièces sur des tréteaux écrites parfois dans la journée même par Prévert et devant un vrai public qui réagissait tout de suite, qui se marrait ou qui se marrait pas, qui comprenait ou qui comprenait pas, mais c'était cette volonté de faire un théâtre qu'on a eu ensuite à travers le Théâtre National Populaire, par exemple, de Jean Villard dans les années 50-60. Et Didier Danin, qui a bien raison de rappeler qu'il s'agissait évidemment d'un théâtre émancipateur, d'une volonté comme ça de s'émanciper par la culture et non pas de se livrer à la fabrique de produits de consommation. J'évoque tout ça, mais le mieux pour évoquer tout ça, évidemment, c'est de retrouver la voix d'un des piliers et acteurs de ce groupe Octobre, Raymond Bussière.
Il y avait, tu sais, tout un groupe de gens qui s'occupaient de littérature populiste, qui s'occupaient d'etc. Et il y avait deux acteurs, qui avaient monté un groupe qui s'appelait le groupe Prémisse. J'étais fonctionnaire à la préfecture de la Seine, j'étais dessinateur. Or, on a été, et ces gars faisaient du théâtre, des sortes de poèmes en chœur, etc., populistes. Et assez vite, j'ai rencontré quelques copains là-bas qui ont été comme moi, qui étaient très intéressés par l'art, on aimait bien ça, mais enfin, on avait tout le surréalisme, on avait tout découvert dans ce genre-là, à ce moment-là, et son petit populisme ne nous passionnait pas. Et nous, on avait entendu parler aussi du mouvement qui existait en Allemagne, avec, comment il s'appelait, un grand maître, Piscator, et qui était l'agite propre, l'agitation de propagande. Oui. Alors un jour, on en a parlé à Moussinac. Et Moussinac nous a dit, écoutez, puisque vous intéressez pas, etc., montez donc votre groupe, quoi. Et avec 5 ou 6 copains qui étaient dans ce groupe Prémisse, nous avons monté un groupe. Et je te dis, pour qu'il n'y ait pas de gourance, pour qu'on sache exactement à quoi ça correspondait, on l'appelait le groupe Octobre. Je ne sais pas exactement qui a eu l'idée de l'appeler le groupe Octobre, mais enfin, voilà. Quand on a eu monté ce groupe, d'accord, je te dis avec Moussinac, le grand problème, ça a été de trouver des textes. Et on a été voir Jacques, et il nous a dit, j'ai pas le temps, mais qu'on se revoit. Et nous avions mis dans l'intention de faire des textes. Nous avions pris des coupures de journaux, toutes les coupures de journaux bien dégueulasses qu'on trouvait dans l'Intransigeant, dans l'Écho de Paris, dans les machins, tout ça, bien ordurier. Et alors on les avait mis de côté. Et un jour, on a apporté tout ça à Jacques, et il nous a dit, bon, ben, je vais y penser. Mais entre 2 jours, ou en 3 jours, il nous a rapporté un texte qui s'appelait « Vive la presse ».
Attention, camarades. Attention. Mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renault. Pour Renault, pour le pape, pour Kiap, pour les marchands de viande, pour les marchands de canons. Ici, les enfants jouent avec la tuberculose dans le ruisseau. Le travail est dur, mal payé, très dur, très mal payé. Et quand vous sortez dans la rue n'est pas à vous. La rue est aux flics. La rue est aux curés. Regardez vers la Russie, camarades. La Russie où il y a des hommes et des enfants qui rient. Des hommes comme vous, qui vous appellent et qui vous crient. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
Puis t'es venu avec un gars qui s'appelait Tchimoukov, qui se faisait appeler Tchimoukov, qui s'appelait Louis Bonin. Et alors Jacques nous a lu ce texte, on était en deux naturellement. On était en quatre, on était étonnés. Enfin, et puis ce loup Tchimoukov nous a dit, alors on pourra avoir un paravent, on pourra avoir ceci, puis alors on mettrait une jume où on va avoir tout ça en apparence. Mais vous ne faites pas, on te débrouillera avec ça. Et voilà, puis il est venu avec tous ses copains surréalistes, de plein de gars, enfin, plein de copains, et voilà comment le groupe Octobre a été formé.
Et voilà comment ça s'est passé. Vous avez reconnu Raymond Bussière, c'est vraiment merveilleux d'entendre la voix de ce bonhomme formidable. C'est ça. Prévert s'est mis à écrire pour le groupe Octobre, contre le capitalisme, contre l'avènement d'Hitler. En 33, il a écrit une pièce dans la journée pour la grève à Citroën, enfin pour des tas de moments comme ça. Et dans la troupe, le groupe Octobre, sont passés des gens comme Mouloudji, Yves Deniaux, Yves Allégret, Francis Lemarque, Joseph Kosma, Roger Blin, Maurice Baquet, Paul Grimaud, et puis Raymond Bussière, entre autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, Didier Deninck le disait tout à l'heure, la troupe a participé au festival de théâtre de Moscou en 1933, alors qu'il faut le préciser, le groupe Octobre n'était en aucun cas inféodé au Parti communiste. Les archives montrent très précisément ça. Aujourd'hui, il y avait une totale indépendance financière. Les annonces qui paraissaient dans l'Humanité lorsque le groupe jouait quelque part étaient insérées à titre payant. Alors, il y avait des tendances, évidemment. Tout ça, ça se passe avant 1936, hein, ce dont on parle, dont Raymond Bussière parlait. Alors, à l'intérieur du groupe, il y avait des tendances politiques, il y avait des communistes, il y avait des trotskistes, mais il y avait surtout la sensibilité libertaire, comme on pourrait résumer. Alors en 36, ça a été l'apothéose du groupe Octobre, qui a pris part à toutes les luttes, dans les manifs, dans les soupes populaires, dans les queues de chômeurs, dans les balles du 14 juillet, dans les communes de la banlieue rouge. Ils jouent partout, ils se produisent dans les usines occupées, à la Samaritaine, pour les employés en grève. Le groupe Octobre joue le tableau des merveilles, adapté par Prévert d'après Cervantes, et mis en scène, enfin assistant à la mise en scène, il y a un gars qui s'appelle Jean-Louis Barrault. Et l'aventure va prendre fin en 36, l'été 36 à peu près, et pour plusieurs raisons que ceux qui sont passés par le groupe Octobre n'aiment pas trop évoquer, parce que c'est d'abord l'amitié qui est restée pendant des années et des années, ces gens sont restés amis, une sorte de fraternité, une réelle fraternité, mais les raisons... Il y en a quelques-unes qui sont entre autres politiques. Le voyage à Moscou avait sans doute fait comprendre à certains la vraie nature de l'Union soviétique. Il y avait peut-être ce pressentiment de ce qu'allait être le lâche soulagement, expression de Léon Blum. Il y a la rigidité dogmatique des staliniens à Paris. Autant de choses où l'ironie de Prévert n'avait plus tellement sa place. Et Roger Blin, qui était dans le groupe Octobre et qui deviendra, vous le savez bien, un homme de théâtre formidable, qui nous fera aimer et découvrir Samuel Beckett, a dit « Nos idées étaient anticolonialistes, antipolicières, antimilitaristes, anticurées et dans une certaine mesure antisocial-démocrates. Donc, nous n'avions plus de raison d'exister dans le cadre du Front populaire. » Mais bon, bien sûr que l'esprit de ce groupe a continué à travers le cinéma, à travers le dessin animé, par exemple avec Paul Grimaud, le cabaret, la chanson, le théâtre, jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un moment merveilleux de notre histoire, que cette rencontre entre le surréalisme et le monde ouvrier.
L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant, grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête, et un troisième sur l'épaule gauche, avec les outils en bandoulière, et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière, et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail. Et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher des breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied. Le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied. Le grand portrait doré. Le grand portrait du grand divinateur. Le grand portrait du grand empereur. Le grand portrait du grand penseur. Du grand sauteur. Du grand moralisateur. Du digne triste farceur. La tête du grand emmerdeur. La tête de l'agressif pacificateur. La tête policière du grand libérateur. La tête d'Adolf Hitler. La tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Alors, les écrivains à l'époque, les intellectuels et les écrivains dans le Front populaire, comment tu les vois? Ils ont tenu. On voit dans les photos de Willy comment ils participent à des actions diverses. Comment tu, enfin, quelques figures, tu vas pas les voir dans leur ensemble. Il y a pas un ensemble.
Non, il y a beaucoup de gens qui prennent position pour le Front populaire. Il y a des gens ou alors parce que tout se mélange pour des gens qui font des ruptures. Par exemple, Bernanos avec la guerre d'Espagne, oui. Avec les grands cimetières sous la lune et tout. Donc d'un seul coup, il y a des intellectuels qui changent d'opinion en voyant la réalité des choses et la menace nazie sur l'Europe. Donc il y a ça. Les gens prennent leur marque. Les marques sont prises 36-37. Ça y est, le paysage est à peu près dessiné pour la collaboration et pour la résistance.
On disait en 68, rien ne sera plus jamais comme avant. On le dit à chaque fois qu'il y a un grand truc, une grande secousse, une grande brèche. On dit, de toute façon, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est, évidemment, la formule s'applique à 36, mais en quoi? Qu'est-ce qui a définitivement changé à cette époque-là?
Pour moi, c'est ça. Il y a tout ce dont on a parlé, mais c'est surtout la prise de conscience du temps et du corps des gens. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. D'un seul coup, les gens se considèrent comme des humains à part entière. D'un seul coup, c'est plus des éléments de la machine. Donc il y a ça. Et puis, d'un seul coup, le temps devient une notion sur laquelle ils ont un pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. De cultiver son corps, de cultiver son esprit, d'en avoir le temps, d'en avoir les moyens. Il y a, par exemple, des choses qu'on a oubliées. L'aviation populaire, oui. Elle naît en 1936.
Et l'université ouvrière aussi. L'université ouvrière, où il y avait des cours à peu près sur tous les sujets. J'y ai même, en 1938, donné des cours de photo.
Pourquoi l'aviation ?
L'aviation, d'un seul coup, c'est tout ce qui est moderne. Willy Rony, ça me faisait rire tout à l'heure quand il dit « j'ai fabriqué mon premier agrandisseur, ma première tireuse, glaceuse et tout ». C'était ce côté-là, système D, c'est-à-dire on faisait des postes à galène, on faisait des choses comme ça, et il y avait, d'un seul coup, ces gens qui prenaient possession du ciel. Ils étaient à l'assaut du ciel.
Ça doit dater, certainement.
Voilà, c'est bien de revenir sur le poste à galène, la fabrication des avions et tout ça, parce que les hommes, à cette époque-là, maîtrisent encore les technologies. Yes. Le bricoleur, le bon ouvrier, enfin, celui qui est malin, qui est habile et patient, ouais. Il arrive à tout faire lui-même, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment.
Tous les inventeurs, on voit dans les journaux le nombre d'inventions qu'il y a des brevets sur les gens qui fabriquent des motos, des sidecars.
C'est comme pour les mines.
J'avais commencé la construction d'un pou du ciel.
Un pou ?
Le pou du ciel, c'était un avion. Un petit avion. Ça te rappelle quelque chose ?
Non, c'est extraordinaire.
Mais c'est extraordinaire. C'était un petit avion qui était d'une construction relativement facile, qui ne coûtait pas du tout cher à construire. Et avec un copain, on avait commencé en 1939 la construction d'un pou du ciel. C'est la guerre qui a tout foutu en l'air. Et c'est peut-être à ça que je dois être encore vivant. Parce que ces pous du ciel, de temps en temps, ils se cassaient la gueule.
Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Et vous, amusez-vous, commodez fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici pas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Et vous, faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou, amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Et vous, amusez-vous, comme on est fou. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout.
Pourquoi une pause ?
Léon Blum.
D'abord, pour une raison bien simple, bien vulgaire.
Février 1937.
C'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite et qu'après une course si rapide, eh bien, il peut être naturel de souffler un peu. Nous pourrons repartir bientôt ensemble, repartir pour de nouvelles conquêtes, pour de nouveaux progrès et pour de nouvelles victoires.
Daniel Tartakovsky, comment ça finit cette aventure ? Parce que les dates sont là. Il y a un moment quand même où, en février 1937, Léon Blum dit « il faut une pause dans les réformes ». C'est ça sa formule ? Il y a quand même un moment où ce patronat qui était présent à Matignon et qui a presque tout accepté passe à la contre-offensive.
Oui, la contre-offensive est là. Je me rappelle un jour dans un débat... Je parlais du rôle des fêtes comme élément de politisation. Et quelqu'un me dit, vous parlez des fêtes, mais en même temps, il y avait la guerre d'Espagne qui était là. Oui. Alors, ils faisaient la fête ou ils avaient peur ? Mais je lui dis, oui, les fêtes sont devenues à ce moment-là un puissant instrument de politisation, c'est vrai, mais l'Espagne, elle était au cœur des fêtes. La fête était un moyen de lutter. Et je crois que le Front populaire, c'est un moment où il ne faut jamais oublier... que ces militants qui viennent d'emporter une victoire, ils savent que la guerre est aux portes. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que la guerre est aux portes et ils luttent contre la guerre et ils luttent contre le fascisme. On est dans un moment d'une extrême fragilité les contradictions sont là et elles demeurent là, et elles s'accroissent. Alors les contradictions, c'est quoi ? Bah, effectivement, c'est la guerre d'Espagne. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les contradictions, c'est les contradictions économiques. La contre-offensive, elle s'opère sur le terrain économique. Du patronat qui ne va pas utiliser les 40 heures pour embaucher. Alors, la contradiction, elle est là. Le Front populaire permet un accroissement considérable du pouvoir d'achat, du monde du travail. Et le patronat n'utilise pas les 40 heures pour embaucher. Donc, la production se contracte dans une période qui est une période de crise. Donc, il y a des importations et le franc s'effondre. Enfin, il joue la crise économique. Et le Front populaire, il est très, très vite confronté à des difficultés économiques majeures et à des contradictions majeures sur l'Espagne. Et le problème, c'est que le Front populaire, ce n'est pas les organisations ouvrières, point. C'est une alliance du Parti radical, du Parti socialiste, du Parti communiste. Et on sait très bien que, depuis qu'il existe, le Parti radical, qui n'est pas un parti animé par une discipline de groupe, a constamment fait basculer les gouvernements de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, dès que les intérêts de ce monde, de petits, classe moyenne, étaient menacés.
Concernant la guerre d'Espagne, finalement, le gouvernement de Front populaire ne s'engagera pas aux côtés des Républicains et aux côtés du Front populaire espagnol.
Qui n'est pas le même. Hein. On ne peut pas dire qu'il ne s'engage pas. On peut le dire, disons-le.
Et certes, on le dit ou on ne le dit pas?
Non, je ne vais pas le dire. C'est la fameuse question de la non-intervention. Mais cette non-intervention, nous savons bien que ça signifiait simplement la vente d'armes à l'Espagne. À la minute où le gouvernement Front populaire aurait décidé de s'engager plus loin qu'il ne le fait, les radicaux quittait le gouvernement et l'effondrement politique du gouvernement avait lieu quelques mois plus tôt, même si on n'écrit pas l'histoire avec des si. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Et à mon avis, compte tenu du rapport de force en tant que gouvernement, c'est la politique la plus efficace. Il organise ce qu'on appelait la contrebande déguisée. Il laisse passer les armes. Ce sont les organisations ouvrières et c'est le Parti communiste, ce sont les brigades internationales qui organisent physiquement le passage des armes et l'envoi de militants sous la forme des brigades internationales, mais le gouvernement laisse passer les armes et laisse passer les militants. Donc, je crois qu'il faut nuancer. Je sais bien qu'on a les militants criaient des canons pour l'Espagne et chacun savait bien qu'à partir du moment où le fascisme l'emportait en Espagne, la guerre était aux portes. Mais honnêtement, je pense que les mesures qui sont prises sont les mesures qui sont les plus efficaces dans le contexte de 1936, dans la mesure, encore une fois, où il s'agit de maintenir l'alliance. À la seconde où l'alliance éclate, c'est fini.
Vous avez entendu, l'autre soir, au Vélodrome d'hiver.
Léon Blum.
Les délégués du Front populaire espagnol.
Septembre 1936.
Je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous? Croyez-vous que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Alors, il faut bien qu'il y ait tout de même à cette conduite des motifs, peut-être valables, je le crois, en tout cas intelligibles.
Il est vrai que l'expérience est fragile et il est vrai que si on prend les dates du gouvernement, c'est court. C'est court et ça finit mal. Mais il me semble que cette expérience engage durablement des mutations profondes qui produisent leurs effets dans la longue durée. Bon, premièrement, certaines mesures ne seront pas remises en cause. C'est le cas des congés payés. Et avec le Front populaire, le rapport des hommes et des femmes à la politique s'est transformé. Qu'il y a eu un phénomène de politisation durable, qu'il y a eu un phénomène d'articulation nouvelle entre les formes de mobilisation et les formes de régulation, et que cette transformation des cultures, cette forme nouvelle d'entrée en politique, va marquer durablement les modes d'agir. Un seul exemple. Qu'est-ce que c'était que faire de la politique avant 1936 ? C'était mettre un bulletin de vote dans l'urne, ça concertait les citoyens français de sexe masculin âgés de plus de 21 ans. Avec le Front populaire comme mouvement de masse, mais également comme expérience gouvernementale nouvelle, reposant sur un rapport nouveau avec la mobilisation collective, faire de la politique, ça a été faire grève. La grève est devenue un instrument de l'action politique. Les manifestations de rue sont devenues un instrument de l'action politique. Le programme de Front populaire naît de la mobilisation paraît dans la rue. Les fêtes, je le disais, qui deviennent d'intenses lieux de politisation familiale, où on vient avec les enfants. Et ça veut dire que, dès lors que les formes de l'action politique se transforment, eh bien, elles s'ouvrent à ceux qui, hier, étaient les exclus de la politique. Les femmes, les jeunes, les travailleurs immigrés.
Oui, alors, les femmes, elles attendront la libération pour avoir le droit de vote. Les immigrés, la colonisation, quelle est l'attitude du Front populaire par rapport à la question coloniale ?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut bien voir qu'en 1936, on ne peut pas confondre la question coloniale et la question de l'immigration. Les immigrés de 1936, ce sont pour l'essentiel des immigrés qui viennent des pays frontaliers de l'Europe. Et le Front populaire, qui est certes plongé dans la crise, va s'essayer à construire un statut de protection des travailleurs immigrés. Il est vrai qu'on défend les exilés, et là, de ce point de vue-là, la politique de défense des exilés antifascistes a été extrêmement forte et efficace, et que la question de l'immigration est traversée par une contradiction, mais le Front populaire s'essaye de la défendre en créant un statut des immigrés. Pour les colonies, je crois qu'on peut prendre de pair la question des femmes et des colonies. N'oublions jamais que cette expérience gouvernementale, elle est constamment surdéterminée par la menace fasciste. Et que donc, il s'agit de préserver l'alliance contre le fascisme et d'arracher les classes moyennes à la tentation fasciste. Il y a toujours ce modèle allemand qui est là. Donc la question du front antifasciste et de la force du front antifasciste, elle est première. Donc dans le programme du Front populaire, il y a peu de choses, il est vrai. Mais je crois encore une fois que si l'on perd de vue l'idée que le danger principal, c'est le fascisme et qu'il ne faut rien faire qui puisse affaiblir le front antifasciste, on risque de poser de mauvaises questions et donc de faire de mauvais procès.
Daniel Tartakovsky, le but de cet entretien, c'était de faire un lien entre tout ce que vous venez de raconter et aujourd'hui, où on a un président socialiste, un gouvernement socialiste et peut-être une assemblée socialiste avec, on le disait en commençant, un front de gauche qui s'est constitué. Quel lien faites-vous entre cette époque que vous venez d'évoquer et aujourd'hui ?
Il me semble que un des problèmes qui se posent à la gauche, aux gauches, c'est son lien, ses liens avec le mouvement social. Nous savons bien qu'en 81, on a parlé d'état de grâce, et on peut évidemment renverser la formule en la posant sous des formes qui sont moins sympathiques. Et parler d'une absence de mobilisation. La mobilisation, elle s'est faite à droite, à partir de 82-83. Je crois que la question qui est posée aujourd'hui, c'est effectivement la capacité ou l'incapacité qu'auront les forces parvenues au pouvoir. Et je souhaite évidemment personnellement que l'Assemblée législative reproduise sous des formes les plus fortes possibles le poids de ces gauches, et notamment de cette gauche, de ce front de gauche, qui est susceptible d'apporter un élément de renouveau fort à la situation. Il me semble que c'est bien la question du lien avec le mouvement social, qui n'est plus 836, qui est un autre mouvement social, qui se trouve posé. Ce qui est frappant, c'est que je parlais tout à l'heure, j'ouvrais sur cette séquence 36-46, dans une situation de très grandes difficultés, je ne dis pas que celles que nous connaissons sont moindres ou plus grandes, elles sont autres, qu'ont eu alors les gouvernements de gauche ou d'alliance à engager le pays dans la voie d'un renouveau en inventant un État social qui est un État social à la française et qui, dans ses contradictions, a quand même été un élément suffisamment fort pour que les forces de l'argent et les forces libérales se soient efforcées de l'abattre depuis les années 80. Donc la question, c'est bien ce lien. Il est clair que si les forces qui dirigent, si le Parti socialiste est coupé ou ne parvient pas à nouer un lien avec ses forces de mouvement, il se prive de la capacité d'inventer, et il s'agit bien d'inventer aujourd'hui.
Merci à Daniel Tartakovsky, merci à toutes et à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que les trois émissions précédentes consacrées à l'évocation du Front populaire. Et puis n'oubliez pas, samedi prochain, le 26, nous serons au Glière, à Torrent-Glière, pour le repère des repères de là-bas, si j'y suis. Toute la journée, il y a des débats plus passionnants les uns que les autres. Et le dimanche matin, il y a une marche sur le plateau des Glières. On espère voir Nicolas Sarkozy parmi le public à la technique aujourd'hui. Ben oui, il a dit qu'il y retournerait tous les ans. Ronan Mahé et Frédéric Boeuf, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Non mais j'ai peur en avion et en bateau. Alors depuis que j'ai gagné Euromillion, j'ai enfin pu aller en Corse. En me faisant construire un tunnel sous la Méditerranée. Mais un discret, hein, parce qu'il ne s'agit pas de déranger les Corses. Prochaine étape, New York. Et si je faisais un pont pour y aller ?
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce mardi, jackpot de près de 72 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Hop.
Dis donc, t'as la santé, toi ?
Oui, depuis que je suis à la Matmut.
On peut dire que t'es prévoyant.
Pour ça, c'est surtout la Matmut qui s'en occupe.
Ah, comment ça ?
Pour la santé, la prévoyance, c'est la Matmut qui m'assure.
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure.
Allez !
Hop.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Sur la route, le nouveau film de Walter Salles en sélection officielle au Festival de Cannes.
The only people that interest me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk.
L'histoire de trois jeunes gens assoiffés de liberté, partant à la rencontre du monde, des autres et d'eux-mêmes. Sur la route, l'adaptation du roman emblématique de Jack Kerouac, au cinéma le 23 mai. Retrouvez Sur la route dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival des Eurockéennes de Belfort, les 29, 30 juin et 1er juillet. Le Festival des Eurockéennes, 3 jours de musique en plein air. La presqu'île du Malsaucy accueillera un festival d'exception au travers d'une soixantaine de concerts avec The Cure, Lana Del Rey, Justice, Jack White, Alabama Shakes et beaucoup d'autres. Renseignements sur franceinter.fr.
À demain 15h pour la basse et j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Jean-Marc Ayrault annoncera demain en Conseil des ministres le calendrier social des prochaines semaines. L'occasion aussi de préciser la méthode sur la concertation. Devant les députés socialistes, le chef du gouvernement a dramatisé l'enjeu des législatives et le risque d'une cohabitation en cas de succès de la droite. En ligne de mire, l'augmentation de la TVA ou encore la baisse des effectifs dans l'éducation nationale à l'automne prochain. Dans le Lot, les électeurs devront faire preuve de vigilance pour ne pas se tromper de bulletin au premier tour. La députée PRG sortante sera confrontée à une candidate souverainiste présentée par Debout la République. Coïncidence, toutes deux portent le même patronyme, Orliac, mais l'une se prénomme Diane et l'autre Dominique. Le directeur de campagne de cette dernière dénonce une candidature opportuniste qui n'a rien à voir avec le hasard. Vers la fin de la semaine de 4 jours à l'école primaire, le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, se dit favorable à la classe le mercredi matin. C'est selon lui la solution la plus juste pour préserver par exemple la vie de famille, les parents divorcés, en rappelant qu'il y aura concertation avec les collectivités locales. Dans l'actualité, les intempéries dans l'Est annoncent un mort et des dégâts matériels très lourds après les intempéries de la nuit dernière. Une personne âgée, sans doute surprise par la montée des eaux, a été retrouvée morte ce matin dans sa cave. La cour d'appel de Paris qui valide toute l'enquête sur l'affaire Néret. Elle rejette les requêtes en nullité déposées dans ce dossier de corruption. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon va donc rester en prison. À Paris, un homme grièvement blessé lors d'un passage à tabac. Hier soir, il a été attaqué par une dizaine d'individus armés de battes de baseball, de barres de fer, de couteaux. Ces jours ne sont pas en danger. 3 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Direction La Croisette, où deux films sont en compétition aujourd'hui. Deux habitués du Festival de Cannes, Ken Loach et son film La Part des Anges, mais aussi Brad Pitt, tête d'affiche de Kogan, La Mort en Douce, du néo-zélandais Andrew Dominik. L'acteur américain qui produit ce polar sombre et très violent incarne un tueur à gages cynique, très éloigné de son image. Brad Pitt à Cannes lors de sa conférence de presse.
Il est clair qu'aux États-Unis, nous vivons dans un pays qui est très divisé. Et oui, ces points de vue que l'on voit dans le film et qui ne sont pas vraiment, et même pas du tout les miens, ces points de vue m'intéressent. J'adorerais par exemple faire un documentaire sur les partis républicains et démocrates pour comprendre comment les gens en arrivent où ils en sont, comment ils deviennent ce qu'ils deviennent. Moi je préfère le parti démocrate, je suis plutôt de gauche, mais je ne suis pas opposé à ce genre de personnage comme celui que je joue, certainement animé par l'instinct de survie.
Brad Pitt au micro de Jean-Baptiste Urbain pour terminer l'ouverture de la bourse de Wall Street et l'action Facebook qui fait encore le plongeon cet après-midi, moins 5%, trois jours après son introduction en bourse.
France Inter aime le cinéma et s'installe en direct du 65e Festival de Cannes.
Do you ever get the feelings that you don't know what's going on?
Action.
Tout au long du festival, retrouvez les émissions de France Inter en direct de La Croisette. Et retrouvez aussi l'actualité cannoise tous les jours à 7h25 dans la chronique de Laurence Perron et dans le journal de 18h avec Christine Siméon.
Y a quelqu'un ?
Jusqu'au 27 mai,
maman ?
France Inter partenaire du 65e Festival de Cannes. France Inter. La différence.
16h04, c'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Hier, nous avons évoqué la disparition de Dietrich Fischer-Dieskau, grand baryton allemand, et de Franz Klida, grande pianiste française. Et j'avais lu un peu du communiqué d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication en ce qui concerne Dietrich Fischer-Dieskau. Puis un autre communiqué nous est parvenu concernant Franz Klida, donc qui résume très très bien la carrière de cette belle artiste. On va l'entendre jouer encore un petit peu parce que hier, comme il y a beaucoup de promotions, ce qui est un gage que l'émission a du succès, bien sûr. Alors, on a été un petit peu poussé, j'ai pas pu passer ce que je voulais, mais on va se rattraper maintenant. Donc, le communiqué d'Aurélie Filippetti nous dit que c'est une immense pianiste qui vient de nous quitter. Franz Klida était l'une des plus brillantes interprètes de Liszt dans le monde. Ses affinités avec le compositeur hongrois ont été reconnues dès 1956, année où elle a reçu le prix Liszt à Budapest. Grande concertiste, elle a donné plus de 2700 récitals et concerts dans le monde entier avec les plus prestigieuses formations orchestrales. Alors, après, bon, elle a enregistré beaucoup, une intégrale Liszt, on en a déjà parlé hier, 26 disques uniques au monde, couronnés par l'Académie du disque hongrois et réédités en 2011 à l'occasion de l'année Liszt. Et puis, on a parlé aussi de son affection pour Chopin, Rachmaninov, Satie, etc. etc. Donc, moi, je suis très content que la ministre de la Culture s'intéresse aux artistes classiques, vivants ou disparus. Ça fait plaisir. Mais enfin, il y en a aussi beaucoup de vivants qu'on va entendre d'ailleurs aujourd'hui. Néanmoins, encore un petit coup de chapeau affectueux à Franz Klida et à Franz Liszt, puisque lors de l'émission Les Affranchis ce matin, nous avons entendu Luc Ferry, philosophe, écrivain, nous parler de l'amour. Eh bien, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous proposer le troisième nocturne de Franz Liszt, intitulé « Rêve d'amour ».